L'écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Jumière, Les miroirs brisés. Mise en scène, production, Jean-Pierre Jumière. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. qui l'empêche de se concentrer. Alors, elle décide de moins apprendre. Mais sa lectique la rend nerveuse, lui donne le cafard. Elle supporte encore moins sa vie. Quelque chose la tracasse. Et même sa vie intérieure ne lui plaît pas. Elle sent quelque chose en elle. Ce qui est en elle et ce qu'elle rêve, les lieux, ces gens. Un soir, au coup d'un repas, elle se met à crier. Je ne suis pas Fleur. Je ne suis pas Florence. Je suis Fleur Duselet. Oui. Tous la regardent. Elle-même est surprise de ce qu'elle vient de dire. Et pourquoi elle dit ça, qu'elle s'appelait comme ça. Puis les autres se disent qu'elle est malade. On n'en veut pas à ceux qui sont malades. Sur notre famille, elle veut savoir ce que c'est. Elle l'a dit comme ça, mais elle sent que c'est proche d'elle. Alors, en cachette, elle regarde sur l'annuaire. Sur l'ordinateur. Trouve plusieurs personnes qui ont ce nom dans des lieux différents. Elle décide c'est de prendre des adresses pour ne pas oublier. Prendre les listes des gens. Elle a l'impression que c'est un secret à bien garder. Alors elle y marque sur un papier qu'elle garde sur elle. En marquant la liste, une adresse lui rappelle quelque chose. Elle a l'impression de se souvenir. Oui, c'est une adresse d'un de ses cauchemars. Alors elle aimerait aller voir où se trouve cette rue. Oui, ça doit être là où le mystère doit se trouver résolu, mais ne peut pas sortir. Elle ne peut pas sortir. Un jour, dans le parc, elle voit une silhouette d'homme. Silhouette d'homme. Elle panique, prend une prisonnière. Oh ! On la prend, on la ramène à sa chambre. Vite, on lui donne des médicaments. Elle se demande pourquoi elle a eu cette crise, ce trouble. Est-elle folle ? A-t-on raison de la séquestrer? durant cette période? Elle est soignée dans sa chambre par la gouvernante. Elle lui dit, faites attention, ne faites pas de bêtises. Deux fois déjà, c'est beaucoup. Elle entend tout ça dans le brouillard, mais se demande ce que veulent dire ces deux fois. Oui, se demande ce que veut dire ces deux fois. Ce doit être le chat et son mari, ou son mari et l'autre. Elle fait durant cette période des rêves de plus en plus terribles, des sangs de cadavres dans des lieux lugubres. Une nuit, elle court, qu'elle rêve dans la rue, qu'elle court dans la rue, sous la pluie. Lorsqu'elle se réveille, elle se demande si elle a rêvé. Pourquoi sa chemise de nuit est-elle toute mouillée? Elle va vite la changer et se demande comment elle a fait pour sortir de chez eux. Durant cette période, elle oublie le cadavre qu'elle a mis dans le puits. Puis petit à petit, on la sort de sa chambre, on la nourrit mieux, fait passer les journées dans le jardin. On la sort même à Paris. On lui fait acheter des choses pour l'été. Elle se laisse guider et on reprend un peu ses esprits. On fait tout ça pour l'amener à Deauville, pour qu'elle puisse paraître normale, pas malade. Une fois qu'elle va vraiment mieux, une fois qu'elle va vraiment mieux, un matin, au petit déjeuner, la grand-mère lui dit, nous allons partir à la maison. Ça te va? Oui. Bon, très bien. Nous partons demain matin. Tu vas te reposer. Ça te remettra de l'hiver. Thank you. vaisseau partit. Armand les accompagne. Ce trajet se passe bien. Betty dit, elle a l'air calme. Isabelle dit, oui, elle va mieux depuis quelque temps. L'air de la mer lui fera du bien. J'espère. C'est qu'elle va trouver une occupation pour qu'on soit plus tranquille. Enfin, ils arrivent. Florence retrouve la maison qu'elle connaît déjà et qui lui fait moins peur. Elle a sa chambre. Les chiens qui aboient toujours chaque fois qu'ils la voient, pour eux c'est toujours une étrangère. Arrivés, ils déposent des bagages dans leur chambre et vont manger. Un morceau dans la salle à manger. Armand leur dit, je repars ce soir. Sa mère le regarde. Tu es venu, c'est pour quoi faire? Il ment.
Ben, j'ai à faire, je ne peux pas rester.
Alors pourquoi es-tu venu?
Il dit, si je n'étais pas venu, tu aurais dit, pourquoi est-ce que je ne viens pas?
Elle lui dit, je croyais que tu allais rester un peu avec moi.
Je ne peux pas. Les affaires.
Et il est parti. Florence se sent mieux là qu'à Paris parce qu'elle se sent plus libre. Les deux vieilles passent la journée à discuter, à préparer des confitures ou autres. Elles sont bien, toutes les deux, et ne vont jamais à la plage. La grand-mère dit à Isabelle,
elle a l'habitude, elle connaît l'endroit et elle ne risque rien.
Isabelle demande, elle ne risque pas de se noyer?
Non, elle ne va jamais nager, elle marche et c'est tout.
Et Florence est plus libre, oui, beaucoup plus libre. Ça lui permet de retrouver ses esprits. Elle aime se promener sur la plage. La plage est presque vide, les gens sont partis dans le midi ou à l'étranger. L'après-midi, elle voit sur la plage un jeune homme d'à 25 ans, grand, mince, blond, agréable à voir. Il s'assit sur le sable, en short et chemise blanche. Dès qu'elle passe devant lui, il lui dit « Bonjour ». Elle se retourne et lui dit « Bonjour ». Il lui demande « Vous êtes en vacances ?» Il a l'air sympathique. Malgré qu'elle ne connaisse pas, elle lui dit
Je suis pas en vacances. Il ment. Quoi alors ? Elle lui dit. Ma belle-mère a une maison ici. Elle y habite. Mais nous vivons à Paris. Je suis jamais en vacances puisque je ne travaille pas. Il lui dit. Vous en avez de la chance. Elle lui dit. Vous croyez ? Il lui dit. Oui. Moi je cherche du travail. Parce que je suis obligé de travailler. Mais vous ? Si je pouvais faire comme vous, ne rien faire, ce serait bien. Elle hésite et s'assoit à côté de lui. Il lui dit, je suis de Paris moi aussi, de Montparnasse. Et vous, avenue Floche, vous faites Mazette, avenue Floche. Elle lui dit, oui, mais enfin, c'est à mon père. Enfin, elle était parce qu'il est mort, il lui dit. Moi, je vis avec ma mère. Elle est couturière chez elle. Elle a beaucoup de travail. Parce qu'il faut qu'elle paye mes études, elle lui dit. Je comprends. Pour vous, le travail, c'est une obligation. Oui. Exactement. Et qu'est-ce que vous désiriez faire ? Il lui dit. Je ne sais pas. Peut-être travailler comme interprète. J'aime bien les langues. Et je suis assez fort. Mais j'ai un handicap. C'est que je sais mieux me débrouiller en écrit qu'en parler. Là, j'ai un handicap. Elle lui dit, viens en Toussaint. Il lui demande, et vous ? Elle lui dit, oh, moi, c'est autre chose. Quoique, ça y ressemble un peu. Il lui dit, oui, nous avons tous quelque chose. Il la trouve délicieuse, elle, elle le trouve gentil. Tous les deux se trouvent fragiles. Gênés, ne sachant quoi se dire. Puis, la regarde. Et elle, gênée de ce regard, se met à sourire. Il lui dit, vous avez un charmant sourire. Il lui dit, merci. Ça fait bien longtemps que ne m'a pas fait de compliment. Il lui dit, pourtant, une jeune femme comme vous. Elle lui dit, c'est-à-dire que on paraît que je suis un peu froide. Alors, je fais un peu peur aux gens. Pourquoi ? Parce que je porte malheur aussi. Il lui dit, c'est ridicule. Elle lui dit, beaucoup de personnes que j'ai connues sont mortes. Il lui dit, c'est naturel. On rencontre dans la vie que des gens qui sont mortels. Elle sourit. Il lui dit, trop de sujets de conversation. Vous voulez que l'on marche ? Elle lui dit, oui, je veux bien. Il se lève et se met à marcher sur la plage. Il lui demande, vous appelez comment ? Elle lui dit, Florence. Il lui dit, moi, c'est Laurent. Laurent Martin. C'est pas très joli. J'aime mieux Florence, qui est très beau comme nous. Elle lui dit, merci, mais j'y suis pour rien. Il lui dit, moi non plus. Il rit tous deux. Vous aimez la mer ? Elle lui dit, oui, beaucoup. Je ne suis jamais allé sur un bateau et je ne nage pas. Parce que je crois que j'aurais peur. Mais j'aime bien la mer. Il lui dit, moi aussi, je l'aime bien. Je nage un peu, j'aime bien. Elle le trouve gentil et simple. C'est la chance de ces gens qu'elle voit dans ses soirées. Et puis, il la prend comme une personne normale. Il est aussi très beau. Un joli visage, pas très viril, mais doux. Et un corps mince et plat. et se dit à elle-même qu'il est agréable à voir. C'est la première fois qu'elle trouve vraiment beau un garçon. Enfin, la première fois depuis longtemps. Parce que la dernière fois, c'était Frédéric Thomas. Son mari, c'était pas la même chose. Il avait un côté tellement fragile. Et puis, il n'avait pas cette assurance, ce calme qu'a ce jeune homme et Frédéric. Elle lui demande, vous avez une fiancée, une amie ? Il lui dit, non. Je ne plais pas d'habitude. Les filles aiment les garçons qui les font rire. Il faut s'amuser avec elles. Il faut les amuser. Moi, je suis, disons, assez sérieux. Je ne me permettrai pas certaines choses. En tout cas, avec une fille et en public. Et elles aiment se montrer. Alors moi, je n'ai pas de succès auprès d'elles. Vous savez, j'ai une fille, à notre époque, il leur faut des sensations fortes. Elles aiment le romantique, en tout cas, pour beaucoup d'entre elles, mais un romantisme plus, disons, actif. Moi, je ne peux pas. J'ai été élevé seul par ma mère et c'est pas mon caractère. Et vous ? Elle lui dit, je ne sais pas si j'ai été une fille sage ou non, mais je sais que je m'entends très bien avec les personnes sérieuses. Enfin, pas vulgaire, il lui dit. Ça se voit. Vous ne semblez pas ressembler à ces filles dévergondées que l'on voit de partout. Vous habillez simplement, ne cherchez pas à vous faire voir. C'est pour ça que l'on vous remarque et que l'on cherche à sympathiser avec vous. Elle lui dit, merci. Vous me dites beaucoup de qualités. Il sourit et lui dit, oh, ce n'est rien. Elle regarde sa montre et lui dit, tu m'en retourner. Déjà, oui, j'habite chez ma grand-mère qui est très stricte avec les horaires. Bien, alors retournons-en. Il s'en retourne. Elle lui dit, je vous remercie pour le moment agréable et gentil. Il est surpris, il lui dit, merci, moi aussi. Mais je n'ai rien fait d'extraordinaire pour vous. Elle lui dit, grâce à vous, je me suis senti une personne normale. Ça fait des années que je suis. Je ne me sens pas comme les autres. Il lui dit, mais vous n'êtes pas comme les autres, vous êtes mieux que les autres. Elle lui dit, vous me dites ça, vous me connaissez à peine, vous ne savez pas ce dont je suis et je rêve le plus. Et qu'est-ce que c'est ? Je rêve, c'est d'être libre et partir droit devant moi. Il lui dit, rien de bien extraordinaire. Tout le monde rêve de temps en temps de partir comme ça, droit devant lui. Parce que la vie finit par avoir un poids à vous peser, à être trop présente, pressante. Et si on partait comme ça, on se libérerait peut-être de tous nos soucis. Mais d'autres viendront prendre leur place. Et lui demande pourquoi. Il lui dit, parce que nous sommes tous mortels et nous devons tous lutter pour la vie. Elle lui dit, c'est triste à en mourir. Oui, mais c'est fait comme ça et c'est peut-être mieux. Elle lui dit, moi, je me sens désemparé, il lui dit. Ça vous rend plus désirable. Elle lui dit, merci. Il lui dit, j'aurais pas dû vous dire tout ça, mais c'est vrai, vous êtes une personne avec qui on a envie de sympathiser. Elle lui dit merci. Ils sont retrouvés à leur point de départ. Elle lui dit voilà, je suis arrivé. Il lui demande nous reverrons. Elle lui dit je sais pas. Il lui dit nous portons chance. J'en suis sûr. Et puis je suis seul ici. Vous pouvez bien venir m'accompagner de temps en temps pour faire une promenade. Vous êtes si gentil. J'aime parler avec quelqu'un, surtout avec vous. Elle lui demande pourquoi. Parce que vous avez un très joli sourire. Elle ose les épaules, puis elle lui demande. Vous avez un temps. Vous ne m'avez pas dit ça. Ça me permet de sourire. Alors, nous reverrons. Elle lui dit. Bien, je veux bien. Je suis là presque tous les après-midi à 15h. Cela vous va? Il lui dit. Oui. Très bien. Elle lui dit. Bien, il faut que je me sauve. Je suis déjà en retard. À demain. Il lui dit. Oui. Il lui tend la main. Elle lui donne la sienne. Elle trouve sa main douce. Elle donne confiance. Et s'en retourne toute heureuse. Oui, toute heureuse. Arrivée à la maison, elle retrouve les deux vieilles au salon. Ça lui fait drôle de retrouver ces deux vieilles. Elle a l'impression d'étouffer. Félicie lui dit.
Tu es en retard.
Je m'excuse, je n'ai pas vu l'heure.
La vieille lui dit. Il faudra voir la prochaine fois.
Oui. Elle s'assoit en face de ces deux momies, méchantes et laides, pour prendre le thé.
La bonne les sert.
Elles boivent en silence. Avant de boire, Florence reste songeuse.
Félicie demande. Qu'est-ce qu'il y a? Le thé n'est pas bon?
Si, mais j'aimerais une glace, la vieille dit.
Quelle idée stupide, ma fille, une glace. Tu es folle?
Elle dit agacée. Je suis pas folle parce que je demande une glace, la vieille lui dit.
Voilà qu'elle est en crise.
Laurence lui dit, je suis pas en crise parce que je rêve d'une glace. Laurence demande, et Félicie demande à Isabelle,
est-ce qu'elle a eu ses médicaments?
Oui, elle les a eu, mais le médecin a diminué la dose.
On pourrait les augmenter?
Non, parce que nous n'en aurons pas assez pour le séjour.
Félicie soupire. Nous allons avoir un bon séjour. Ce médecin n'y connaît rien. Pourquoi avoir diminué sa dose?
Elle lui dit. Il paraît que le changement d'air...
Le changement d'air excite les malades.
Florence se lève furieuse et lui dit. Cela suffit. J'ai même pas le droit de dire une chose sans qu'on me traite de malade. Et veuille me droguer. J'en ai assez. Je monte à ma chambre. Je vous laisse. Avec votre tisane, je ne suis pas assez vieille pour aimer cette boisson insipide. Les deux vieilles la regardent surprises. Florence sort de sa pièce pour aller dans sa chambre. Là, elle s'allonge sur son lit.
Elle se dit qu'elle n'est pas plus malade qu'une autre et que ce sont elles qui sont plus malades qu'elle. Elle en a assez de cette vie. Elle veut être entourée de gens simples et qui lui parlent de choses simples, pas constamment pour lui dire qu'elle est folle. Et puis cette maison ressemble à un tombeau. Elle se dit que ça fait des années qu'elle vit de cette façon, cela suffit. Oui, cela suffit. Elle reste la suite de l'après-midi dans sa chambre, à penser à Laurent. Lui au moins la prend pour une fille normale et gentille. Le temps passe. On a frappé à la porte.
Oui, c'est l'heure de dîner, madame. Bien, je descends.
Soupire, se range un peu et sort. Là, elle retrouve les deux femmes dans la salle à manger. Félicie lui demande
« Tu vas mieux ?
Je ne suis pas malade. » Et elle s'assoit. Après le repas, elle retourne dans sa chambre. Le lendemain après-midi, elle se prépare à sortir. Avant de quitter la maison, Félicie demande
« Où vas-tu ? »
« À la plage.
Il fait chaud. »«
Ça va. » Félicie demande à Isabelle.
« Vous voulez l'accompagner ?»«
Non, merci. J'aime mieux rester ici. Je n'aime pas la mer. Ça me donne le tournis. »
Et Florence s'en va. La vieille, une fois qu'elle est partie, dit
« Elle fait exprès de sortir.
C'est pour nous ignorer.
Vous pensez bien qu'elle n'a aucun plaisir à aller se promener là-bas. Il n'y a rien. »
Florence se sent mieux une fois éloignée de cette maison de fous. Sur la plage, elle essaye de voir où est Laurent. Elle le voit assis sur un petit rocher. Elle va à lui. Dès qu'il la voit venir, il se lève et va à elle. Il lui dit «
Bonjour, bonjour. »
Elle lui demande
« Vous étiez assis ?» Sur ce rocher ?
Oui, à vous attendre.
Elle lui dit, eh bien, allons-y, nous serons très bien là.
Et ils vont s'y asseoir. Et soupire, elle lui dit,
je suis heureuse d'être ici. J'en ai assez de ma belle-mère.
Il demande, qu'a-t-elle fait ?
Une scène, parce que j'avais dit que je préférais les glaces au thé.
Il lui dit, juste pour ça, elle dit,
oui.
Lui demande,
Vous voulez une glace ? Elle lui dit. J'adore les glaces. Mais je me souviens plus. Depuis quand ? Il lui dit. Puisque vous savez que vous aimez les glaces, vous occupez pas du reste. Soyez simple. Elle lui dit, vous avez raison. Il faut être simple. Il lui dit, peut-être, mais nous avons tous quelque chose. Et puis, j'aime mieux vous regarder. Vous avez un très beau visage. Je trouve que le paysage va bien. Le décor va bien avec votre visage. Elle demande surprise. Pourquoi ? Parce que votre visage, c'est comme la lumière. Tout en vous est lumineux. Elle lui dit merci. C'est un très beau compliment. On ne m'avait jamais dit une chose pareille. Enfin, je crois. Il rougit et lui dit. Vous pouvez penser à une image dans un film. La rivière rouge, un western. Dans le désert, John Wayne dit au revoir à sa fiancée. Elle est tout de blanc vêtue. Après l'avoir embrassée, monte sur son cheval. Et avant de partir, il regarde derrière, une dernière fois, sa fiancée. Il la voit, debout. Elle est de plein plan, éclairée, baignée de lumière, légèrement plus lumineuse que le décor. Elle ressemble à une vierge toute blanche vêtue et d'une beauté irréelle. Cette image ne dure que le temps qu'on puisse la voir, mais elle est inoubliable, tellement la personne est lumineuse et belle, tellement plutôt la lumière qui éclaire cette personne est belle. Et vous, vous êtes comme ça. Elle est toute surprise et gênée, lui dit, mais je ne suis pas une vierge. Non, mais vous avez la même pureté et le même, vous savez même bien capter la lumière de la même façon. Elle se sent gênée et lui dit, faut pas croire que je sois si, enfin, il ne faut pas m'idéaliser. Je ne suis pas une lumière. Je suis une personne bien réelle et pas très intéressante. Il lui dit, je le sais que vous êtes bien réelle, comme nous tous, mais je trouve que vous êtes très lumineuse, que la lumière vous aime. Apollon doit être amoureuse de vous. Il lui dit, mon Dieu, un Dieu qui m'aime. Il lui dit, son père est très dangereux parce que s'il est jaloux, il peut vous prendre, vous cacher et même vous transformer en autre chose. Il lui dit, c'est horrible, je ne sortirai plus que la nuit. Il lui dit, la nuit, c'est très trompeux, trompeur. Elle n'est que le reflet du soleil. Elle lui fait, alors je suis perdu. Que si vous êtes amoureuse d'une personne, elle lui dit, alors je ne risque rien. Il lui dit tristement, ah, moi qui croyais que vous étiez pur de sentiments et que vous aviez des sentiments que pour moi. Elle lui dit, surprise, « Mais je ne vous connais à peine. » Il hausse ses épaules, il dit, « Ça n'a pas d'importance. On peut avoir des sentiments comme ça, sans vraiment se connaître. » Elle lui dit, « Si vous en avez pour moi, il ne vous met pas. » Il lui demande, « Et pourquoi ?»« Parce que je porte malheur. Toutes les personnes que je fréquente mortes d'une façon étrange. C'est un peu comme vous avez dit pour aller au polon. Mais là, ce n'est pas la même chose. La personne qui élimine les autres, c'est moi. » Il lui dit, « Vous ne ressemblez pas du tout à une tueuse en série. » Elle lui dit, il faut se méfier de tout le monde. Il lui dit, alors, vous vous méfiez de moi? Elle lui dit, non, pas vous. Alors, elle lui dit, j'ai peur de ce qui risque de vous arriver. Il lui dit, et vous, si vous connaissiez quelqu'un, si vous aimiez quelqu'un, moi, ça me ferait souffrir. J'aime mieux ne pas aimer. Mais vous pouvez aimer, oui. Et soupir et dit, marchons un peu. Ils se mettent à marcher un peu. La plage est vide. Il lui dit, la vie est compliquée avec vous. Il lui dit, plus que vous ne le pensez. Parce que j'ai perdu la mémoire et je ne sais plus où j'en suis. Il lui dit, vous en avez de la chance. Moi aussi, j'aimerais tant ne plus avoir de passé, vivre pleinement au présent. Elle lui dit, j'aimerais bien, mais les gens avec qui je suis me font passer pour folle. Ils me posent des font poser des questions sur ce que je suis. L'on me dit folle, dangereuse. Vous ne me semblez pas plus folle qu'une autre. Elle lui dit, merci. Mais vous ne pouvez pas savoir. Je suis peut-être folle. Il lui dit, non, je ne crois pas que vous soyez folle. En marchant, elle cogne une pierre et manque de tomber en avant. Il la retient de ses deux bras, de ses deux mains. Contre, il est contre. Ils sont contre corps à corps. L'un contre l'autre. Elle lui dit, merci. Il le tient toujours de ses deux bras. Et, sans vraiment réfléchir, il lui donne un baiser sur les lèvres. Elle ne bouge pas. Il lui dit, pardon. Alors, d'un geste brusque, elle se penche en cou. Et l'embrasse sur les lèvres. Leurs jambes fléchissent. Et une fois à terre, il est tombé sur elle, tout en continuant à s'embrasser. Elle le maintient contre lui. Les vagues vont jusqu'à eux. Ils s'embrassent, s'enlacent, se caressent. Ses mains la caressent de partout sur son corps. Elle a ses deux mains qui le maintiennent contre elle. Puis au bout d'un moment, et reste enlacé, joue contre joue. La lumière éblouit leur visage. Les vagues vont jusqu'à leur corps. Ils sont heureux. Elle aimerait que cet instant durât toujours. Elle a envie de trouver la sérénité. Lui se sent bien. Ils sont pris tous les deux. Ils ont les larmes aux yeux. Puis il dit, je t'aime. Elle répond, moi aussi. Il se soulève, la relève, la prend par la main. Et il marche en lancée sur la plage déserte. Il lui dit, je t'ai aimé dès le premier regard. Elle lui dit, moi aussi, j'ai tout de suite senti quelque chose, mais j'avais peur. Il lui dit, à cause de cette histoire, tu es folle. Tu crois que tu es la fille du soleil? Et qu'il faut que tu vives la nuit? N'aie pas peur de la lumière. La lumière te protège.
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les miroirs brisés. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.